Vous écoutez RTL. Première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. On est ensemble jusqu'à 22h. Ça
super
va bien,
nouvelle.
Sidonie ?
Très vite, très en forme, Thomas. Salut.
Vous n'avez rien prévu d'ici là, donc c'est bon.
Non, ce soir,
ah,
non.
Ça tombe bien.
Allez, au programme, un voyage dans le temps à la découverte des civilisations disparues. Comment ont-elles régné et pourquoi se sont-elles évaporées ? Les Mayas, les Étrusques, mais aussi les Anasazis, la civilisation Shona, comment ont-elles construit notre monde et quel mystère garde-t-elle encore ?
Et puis à l'occasion de la sortie du nouveau Disney, donc Vaiana, la légende du bout du monde, on va partir à Tahiti. On va découvrir la culture, les traditions et les croyances polynésiennes. Mais tout de suite... Et évidemment, retour. C'est l'heure du crime sur RTL.
RTL.
Après être resté gelé pendant plus de 5000 ans sur un versant montagneux, il est aujourd'hui préservé pour l'éternité dans un tombeau réfrigéré. Voici l'homme des glaces, la momie la plus ancienne jamais découverte.
La curiosité est un vilain défaut.
La presse le baptise Ötzi, du nom de la vallée de Ötztal, où on l'a retrouvé.
Jusqu'à 22h.
Il est aussi la victime d'un homicide non élucidé. Qui était-il ? Et qui l'a tué ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir Jacques Pradel.
Bonsoir Thomas.
Ça
bonsoir Sidonie.
On est très heureux de vous accueillir chez vous, puisque c'est votre studio.
Oui, mais je suis pas à la même place que d'habitude.
Voilà, vous êtes à la place de l'invité.
Donc
ça lumière va, tamisée, vous avez vu.
Vous avez vos marques quand même, tout va bien.
Mais nous on tamise aussi à 14h.
Oui, ouais, c'est pas désagréable. Alors on va effectivement raconter, et on l'a entendu avec la mise en onde d'André Facetta, notre réalisateur, ce qui est en fait le premier... meurtre répertorié de l'histoire, c'est ça, c'est...
Premier cold case, en tout cas,
oui.
On peut se permettre, puisque l'homme a été congelé. Donc, il y a 53 siècles, quand même. Il y a 5300 ans.
Ouais.
Mais on n'a pas compris tout de suite ce qui s'était passé. En fait, si vous voulez, au début, on est en 1991, je crois en septembre, il y a des randonneurs allemands qui se baladent quand même à 3200 mètres d'altitude, pas loin de la frontière, dans le Tyrol, hein, dans les Alpes, le sud du Tyrol.
On est tout près entre l'Italie et l'Autriche.
Et voilà, et tout près de l'Autriche, ouais. et tout près de l'Italie. Et là, ils aperçoivent une sorte de petite mare gelée d'où semble sortir le torse d'un homme. Alors eux, ils pensent tout de suite à un malheureux alpiniste qui aurait eu un problème, et puis de temps en temps la glace rend les corps. Alors ils appellent, comme ils savent pas exactement où est la frontière, ils appellent les gendarmes autrichiens d'un côté et les secours italiens, les carabinieri de l'autre. Bon, et on va s'apercevoir plus tard que le corps est à 92 mètres à l'intérieur du territoire italien de l'autre côté de la frontière. Mais au début, les deux autorités fonctionnent.
Et voilà. Dans quel état ce corps ?
Alors, il n'est pas dans un si mauvais état que ça, parce que on l'amène d'abord en hélicoptère à Innsbruck, où il y a un procureur de la République qui vient voir le cadavre, et comme il y a des traces de coups, et qu'il y a du sang séché, et qu'on n'a pas compris que c'était un homme préhistorique, il ouvre une information contre X, pour meurtre. Et évidemment, quand les médecins légistes viennent, très vite, ils disent, non, attendez, et puis en même temps, il a quand même des chaussures, il me toque en peau d'ours, il a
des chaussures ce sont des indices.
En peau de cerf, etc. Enfin, voilà, quoi.
Donc là, on se dit, on a découvert un corps conservé par les glaces, mais à partir de quand on va se dire que finalement, oui, c'était effectivement un assassinat ?
Dix ans, parce que donc la dépouille ensuite va être réclamée par l'Italie. Mmh. Il se trouve d'ailleurs encore aujourd'hui, je dis aux ceux qui veulent aller à Bolzano, donc côté italien de la frontière autrichienne, il y a un musée d'archéologie dans lequel il y a une pièce réfrigérée, vitrée, où on peut voir le corps de cet homme. Quand
vous
même.
L'avez vu ?
Très impressionnant. Non, je l'ai pas vu. Je n'ai vu que des photos, des vidéos,
ouais.
Mais c'est très impressionnant. Et puis il est conservé, enfin parce que c'est un trésor de la science. Jamais un corps humain n'a été étudié par autant de spécialistes.
Mais attendez, le suspense est à son comble, Jacques Pradel. Comment il a été
tué ? Vous avez bien raison de me le faire remarquer. 1991, c'est la découverte. 2001. En 2001, on le passe au scanner. Et là, il y a un médecin légiste qui dit, mais ça, c'est quoi ? C'est une trace de flèche. Il a une flèche qui lui est arrivée dans les omoplates. Il a été fléché dans le dos. Donc, à partir de là, on sait que c'est un meurtre, ça n'est pas un accident. Ouais.
Et puis, il y a une anecdote qu'il faut raconter quand même à propos d'Ozzy, qui concerne, il faut dire les choses, ses attributs, ses...
Bon, attendez, vous voulez la description,
allons-y.
La fiche signalétique d'Ozzy. Oui. Il a entre 40 et 50 ans, il mesure 1m59 m, il a de la barbe, des cheveux longs, des yeux marrons, mais effectivement... ah oui, il chose du 38, je vous le dis au passage.
Ah, c'est la taille idéale, ça, voilà. Va trouver des chaussures.
Sauf que, un jour, un médecin s'est dit, mais les gars, et le sexe? Il n'y a plus de sexe. Alors, à ce moment-là, c'est des hypothèses qu'on sait.
Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Non, quand même pas.
Ah non, ça, on savait que c'était un homme.
Parce qu'on lui a arraché le sexe.
Mais oui. Mais oui, alors on dit, ah ben voilà, c'est un mari jaloux, il a dû, etc., qui lui a coupé. Bon, oui. C'est l'empire des sens, quoi, si vous voulez. Ou alors d'autres.
Version paléolithique.
Non, mais c'est des ours, des bêtes sauvages et tout. On a fini par retrouver le sexe d'Ozzy, qui d'ailleurs, on a reconstitué la taille originale. À l'état de repos,
alors
12 cm 5,
ce qui correspond
selon les statistiques internationales à une très bonne moyenne, mais simplement c'était la glace et le froid qui avaient rétréci son sexe.
Ça fait ça même aux vivants, vous savez.
Pareil, je me le suis laissé dire, mais je me balade rarement à 3000 mètres d'altitude.
Bon, cette histoire, en tout cas, Jacques Fadel nous montre à quel point la police scientifique a progressé depuis ces dernières années, et on va remonter aux prémices de la police scientifique avec un Français qui s'appelle Alphonse Bertillon. Raconter son histoire, restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les grandes affaires criminelles, c'est ce que nous raconte Jacques Pradel dans La Curiosité. On est ravis de vous accueillir dans notre émission, Jacques. On a parlé du premier grand fait divers, ou en tout cas du premier crime de l'histoire de l'humanité, le fameux Ozzy. On va raconter maintenant l'histoire d'un Français à l'origine d'une première modernisation des techniques policières. On est à la fin du 19e siècle. Qu'a inventé Alphonse Bertillon?
Alors, Alphonse Bertillon, il est employé à partir de 1879 par la préfecture de police de Paris. Il est employé aux écritures. Il recopie les fiches signalétiques et il classe les dossiers des crimes non résolus. Bon.
Il ne se fait pas trop remarquer au début.
Voilà. Mais c'est un amoureux de la science, un croyant en la science et dans les statistiques. Et il va mettre au point un système extraordinaire, il fait naître en fait l'anthropométrie. Il se dit, mais comment retrouver d'abord les récidivistes, et comment, si on arrête un malfaiteur, au cas où il s'échapperait après, comment le reconnaître?
Mais ça veut dire quoi, Jacques Pradel, qu'Alphonse Bertillon va en fait noter des caractéristiques physiques?
Absolument.
Les formes des nez, de la bouche?
Absolument, parce qu'on est en pleine explosion scientifique à cette époque-là, et on vient de constater qu'à partir de l'âge de 20 ans, il y a un certain nombre de caractéristiques physiques qui ne bougent plus. Donc la taille, on arrête de grandir à 20 ans. Il y a l'envergure des bras, hein, c'est-à-dire qu'on fait étendre les gens comme ça. Si vous mesurez du bout de mon doigt droit au bout de mon doigt gauche, ça va rester pendant toute la vie.
Ça bouge pas. Il faut regarder RTL.fr parce que Jacques Pradel mime en même temps.
Hein. Il a beaucoup d'envergure.
Faut pas rater ça. Il a de l'envergure. Non, mais, vous le savez,
bon, hein. Y a la longueur de la coudée gauche. Enfin bon, oui. Je vous passe un certain nombre de détails. La longueur du médius également, le majeur qui ne change pas, ouais. La taille des oreilles, bon, etc.
Alors, il a cette idée géniale, quoi.
C'est absolument génial, surtout qu'il accompagne ses caractéristiques physiques d'une photo, puis c'est le début aussi de la photo anthropométrique de face, et on a tous vu ça dans les films et à la télé. Et il ajoute ce qu'on appelle un portrait parlé, c'est-à-dire une description subjective faite par les policiers qui ont arrêté la personne. Ce qui fait que ensuite, si on a un doute sur l'identité de quelqu'un, bah en quelques instants, on lit. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ouais, voilà.
Alors, Jacques Pradel, vous retracez les grandes affaires criminelles dans ce livre, les grandes affaires criminelles pour les nuls, c'est fait chez First Edition, et évidemment, il y a l'une des affaires qui a à la fois mis un peu en difficulté et rendu célèbre Alphonse Bertillon. Ah, oui. On est le 17 octobre 1902, un dentiste débarque au commissariat du 8e arrondissement à Paris. Que vient-il signaler?
C'est un dentiste de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Il arrive un matin, comme ça, en disant, attention, faites quelque chose, venez à la maison très vite. Mon domestique, comme ça qu'on disait à l'époque, est mort. Il a été assassiné. Et le policier, d'ailleurs, lui dit, vous êtes bien sûr? Il dit, écoutez, monsieur, je suis chirurgien dentiste, je sais faire la part entre un vivant et un mort. Donc venez, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose de terrible. On a fracturé, c'est un cambriolage aussi, on a fracturé des meubles, bon. Et donc, la police se rend sur place, et à l'époque, il y a le chef de la sûreté qui vient, il y a le juge d'instruction qui va suivre l'affaire, et puis il y a notre Alphonse, j'allais l'appeler Adolphe, notre Alphonse Bertillon, qui arrive avec sa mallette, parce qu'il fait maintenant aussi les scènes de crime, photographie de scènes de crime, etc. Et à un moment, alors, il y a la malheureuse victime dans la cuisine qui a été étranglée.
Étranglée sur sa chaise pendant le dîner.
Avec un torchon, voilà, bon, la table n'est pas débarrassée, bon. Et puis, il y a ces meubles éventrés, dont une vitrine qui est cassée. Et le juge d'instruction dit à Bertillon, mais dites-moi Bertillon, regardez, c'est pas une empreinte digitale, ça? Parce qu'il faut vous dire, je m'étais abstenu de vous le dire, c'est que dans les fameuses fiches Bertillon, au début, il voulait absolument pas mettre l'empreinte digitale. Parce
il n'y croyait pas.
Non, il n'y croyait pas. Il trouvait que c'était de la foutaise et que lui était beaucoup plus intelligent. Mais depuis 1894, il était obligé de. Et donc, là, du coup.
C'était une technique concurrente, en quelque sorte, de police scientifique, quoi.
Voilà.
Le balbutiement de la police scientifique.
Sauf que comme on l'y avait obligé, et le juge lui a dit, mais écoutez, il faut photographier cette empreinte, il le fait, et il va se taper, il y a quand même 8 ans de fiches à inventorier. Heureusement, grâce pour lui, 7 mois avant, un certain, j'ai oublié son nom d'ailleurs au moment où je vous en parle, Schaeffer, est arrêté parce que il a fait un vol à l'étalage.
Et on avait pris son empreinte.
Il a été bertillonné, comme on disait à l'époque.
Ah oui, c'est vrai.
Et Bertillon va retrouver son empreinte digitale. Alors il faut dire que l'enquête classique a fonctionné également. C'est comme ça que très vite on a pu savoir qu'il ne s'était pas trompé, Bertillon. On l'a arrêté à Marseille, il a été condamné au bagne et il est mort.
Et c'était
au bagne,
quoi le lien avec la victime, avec le domestique.
Alors, le domestique était homosexuel. Il avait présenté son ami, donc ce fameux Schaeffer, en le présentant comme un vague parent, ça avait trompé personne. Et disons que c'était un crime passionnel qui avait été maquillé par l'auteur en brisant ses vitrines, parce que en fait, les clés de tous les meubles étaient posées sur une commode. Et ça, Bertillon l'avait vu également.
Donc ça veut dire que c'est grâce à cette affaire en 1902 qu'on utilise en France les empreintes digitales.
Ben c'était non, c'était la première fois. C'était la première fois en France qu'on identifie quelqu'un grâce aux empreintes digitales. Les Anglais, les Argentins l'avaient déjà fait depuis quelques années. Mais il faut dire que ce système-là, et notamment le système des fichiers, va durer jusqu'en 1970 avant d'être ensuite automatisé, comme
sûr.
Le fichier des empreintes génétiques. Et les fiches Bertillon, qui vont devenir aussi les fiches Canonge, vont être utilisées aussi jusqu'au début des années 70.
J'ai visité pour une émission qui s'appelle Enquête criminelle, que je présentais sur Double Ménage pendant 8 ans,
le 36
quai des Orfèvres, mais il y avait des grands placards en acier, des dizaines de placards, et dedans il y avait les fiches Bertillon, me semble-t-il.
Mais oui, c'était ce qu'on appelait le sommier dans la police.
Ah,
on appelait ça le sommier parce que ça ressemble vaguement.
Et il avait également une sorte d'alcôve que j'ai visitée où il prenait ses mesures en fait, avec une sorte de. On plaçait le prévenu au milieu de la pièce.
Il y avait des pieds à coulisses, il y avait des instruments qui se mettaient sur les tempes, sur les deux tempes, et on notait soigneusement les choses.
Du coup, j'ai été enregistré là-bas, au 36 quai, au cas où.
Ah bah voilà, il y a vos empreintes digitales aussi. Jacques Pradel, les empreintes digitales, ça reste un outil majeur de la police aujourd'hui.
Ça reste un outil majeur. Je crois, il y a quelques années, j'avais regardé des statistiques, il y avait plus de 11 à 15 000 affaires qui étaient résolues dans l'année, 5 700 identifications, c'est des chiffres qui datent de 2010, donc on est allé bien au-delà maintenant.
Grâce aux empreintes digitales.
Grâce aux empreintes digitales, qui sont toujours un axe majeur pour les enquêteurs. Bien sûr, il y a l'ADN aussi qui est là, mais les empreintes digitales, vous savez combien de chances il y a pour que deux personnes aient la même empreinte digitale?
Une sur un million?
Une sur 64 milliards. Ah. Vous savez combien il y a d'humains sur la Terre en ce moment? Un petit peu plus de 7 milliards et demi.
D'accord.
On a le temps.
Allez, une histoire d'empoisonnement à venir sur RTL. La meurtrière n'a que 18 ans. Elle s'appelle Violette Nozière.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France. RTL.
Ça alors, par exemple?
Quoi donc?
Vous êtes le portrait craché de Violette Nozière. Vous savez, la fille qui a tué ses parents?
Ah oui? Oui, vous avez raison, ça ressemble. Surtout le menton. Mais rassurez-vous, j'ai tué personne.
La curiosité est un vilain défaut.
La cour, après en avoir délibéré, ordonne qu'elle soit conduite pieds nus, revêtue d'un voile noir sur une place publique de Paris pour y avoir la tête tranchée.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'affaire Violette Nozière racontée par Claude Chabrol au cinéma avec Isabelle Huppert dans le rôle principal. Jacques Pradel, c'est l'une des affaires que vous racontez, vous aussi évidemment dans votre livre. Alors on va commencer par la fin,
oui,
puisqu'on entendait l'extrait du film. Elle a été condamnée à mort, mais finalement, elle n'a pas été décapitée.
Mais bien sûr, et quand elle a été condamnée à mort, le tribunal savait qu'on ne guillotinait plus les femmes depuis longtemps.
Oui.
Et d'ailleurs, la peine donc de Violette Nozière a été commuée par le président de la République de l'époque, Albert Lebrun, je crois, en détention à perpétuité. Puis ensuite, il y a eu toute une suite de rebondissements incroyables, parce que en 42 le maréchal Pétain va lui faire une remise de peine très importante. Elle va sortir en 45 et là elle va épouser le fils du bibliothécaire de la prison pour femmes de Rennes où elle avait été incarcérée. Ils vont avoir 5 enfants et ils vont vivre heureux. Les enfants ne sauront jamais que leur mère était une parricide doublée d'une matricide.
Ouais.
Elle est morte dans les années 60 d'un cancer.
Et c'est à ce moment-là que ses enfants ont appris son histoire.
Voilà,
en fait.
Dit-on. Voilà. Moi, j'ai du mal à le croire, mais c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit, absolument.
Alors, on va la raconter, cette histoire, Jacques Pradel. Et donc, on est dans les années 30. De quel crime elle va être accusée? Donc, vous nous l'avez dit, mais il faut le détailler.
Parricide et matricide, parce que voilà, on a quelqu'un qui a 19 ans en 1934, donc 18 ans en 1933, année où elle va décider de se débarrasser de ses parents. Alors, Violette Nozière est née, en 1915, et pour son époque, c'est un ovni, parce que dès l'âge de 16 ans, elle collectionne les amants. Enfin, la France est quand même très collet-montée à l'époque. Bon, elle collectionne les amants, elle fait l'école buissonnière pour cela. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'elle veut de l'argent. Elle veut de l'argent parce qu'elle est complètement mytho. Elle habite rue de Madagascar. Son père est conducteur de locomotive à la compagnie Paris-Lyon Méditerranée.
PLM, ouais.
Mais à l'école, elle dit « Ah, mon père, c'est un grand inventeur. Et d'ailleurs, le grand directeur l'a salué, etc. » Bon. Et donc, sa famille a de l'argent. Donc il faut qu'elle en ait aussi. Elle va le chercher chez des messieurs qui aiment bien...
Donc elle se prostitue.
Des jeunes filles pas farouches, bien sûr, elle se prostitue.
Mais ça suffit pas, tout cet argent ne suffit pas. Elle se dit, il faut que je fasse la peau à mes parents.
Non, il se passe autre chose avant. Ce qui se passe, c'est un drame pour elle. Elle attrape la syphilis. Et évidemment, parce qu'elle collectionne les amants. Et là... Comment annoncer ça aux parents? Elle se fait faire un faux certificat de virginité par un médecin qui a été un de ses clients, disons-le.
Ouais,
bon.
Sans doute, oui.
Et puis ensuite, elle décide, Sidonie, effectivement, de se débarrasser de ses parents. Et là, encore, une intelligence, mais d'une perversité terrible. Elle va, avec une fausse ordonnance, se procurer un des barbituriques les plus puissants de l'époque, qui est le Véronal, qui est vraiment un sédatif très puissant. Elle va apporter ce Véronal avec encore une fausse ordonnance qu'elle va montrer à ses parents. C'est un médicament qui permet de ne pas se faire contaminer par la syphilis.
Quelle perversité!
Alors, elle a son certificat de virginité. J'ai attrapé ça en allant aux toilettes. Et là, le truc, en disant, il faut prendre la poudre blanche parce que ça va vous éviter la syphilis.
Et ça marche?
Alors, ça ne marche pas parce qu'elle a mal dosé la première fois. Alors, ses parents s'endorment. Là, elle met le feu. Et puis, elle appelle les pompiers. Bon, les pompiers arrivent et les parents la remercient. Tu nous as sauvé la vie, merci, t'as appelé les secours. Mais c'est terrible, cette histoire. C'est vraiment terrible.
Donc, elle rate son premier homicide contre ses parents.
Voilà.
Et vous le racontez dans votre livre, Les grandes affaires criminelles pour les nuls. Vous racontez qu'elle va tomber amoureuse dans les semaines qui suivent. Et ça, c'est important aussi. Pourquoi?
Jean Dabin, c'est un très, très beau jeune homme. Elle veut partir avec lui en vacances et elle veut partir à l'étranger. Et c'est là qu'il faut de l'argent. Et elle sait que son père a 18 000 francs d'économie. C'est très important comme somme. Mmh. Elle pense que l'argent est caché rue de Madagascar. Donc là, cette fois-ci, elle augmente la dose. Son père s'endort et va mourir. Sa mère va survivre par miracle. Elle cherche, elle retourne l'appartement. Il n'y a pas les 18 000. En fait, les 18 000 francs, ils ont été mis à la banque par le père. Mmh. Elle va trouver 2-3 000 francs, mais ce n'est pas suffisant pour aller de l'autre côté de l'Atlantique.
Et on va raconter la fin dans une minute, parce qu'il y a encore tellement de rebondissements qu'on va se garder du temps pour raconter la suite de l'histoire de Violette Nozière, l'empoisonneuse. Restez avec nous sur RTL.
Avec RTL, cultivez votre curiosité jusqu'à 22h.
Vous écoutez RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Très heureux de recevoir Jacques Pradel dans La Curiosité. Vous venez nous raconter certaines des grandes affaires criminelles que vous avez répertoriées dans un livre. Là, on était en août 1933 avec une certaine Violette Nozière. Elle a empoisonné ses parents avec du Véronal en espérant leur voler leur magot. 180 000 francs. Elle voulait rejoindre son amant, quitter la France avec lui. Et pourtant, la meurtrière ne trouve que 3 000 euros. Elle est un peu déçue.
3 000 francs.
Oui.
Non. Ou alors, elle avait une machine à voyager dans le temps.
Oui, et c'est là que l'affaire prend un tour très particulier. Jacques Pradel, Violette Nozière va s'enfuir. Et 24 heures plus tard, elle va revenir. Pourquoi? Parce qu'elle veut s'assurer que ses parents sont bien morts.
Absolument.
Et que va-t-elle découvrir?
Et elle va constater que son père, effectivement, est mort, mais que sa mère est tombée du lit, en fait, et qu'elle respire encore. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui porte secours? Bah, pas du tout. Elle est vraiment machiavélique. Elle va dans la cuisine. Elle ouvre le gaz et elle va essayer de maquiller ce qui s'est passé en suicide au gaz. Ah. Et sauf que l'odeur de gaz se répand dans l'immeuble, qu'il y a des voisins qui sont inquiets, qui viennent, qu'est-ce qui se passe ici? Elle dit, ah, je viens d'arriver, mes parents ont dû tenter de s'asphyxier au gaz. Alors là...
Comment réagissent les enquêteurs, les policiers?
Eh bien, évidemment, ils ont le nez de l'enquêteur tout de suite. Ça ne colle pas avec un suicide au gaz, il y a des détails qui ne fonctionnent pas. Et quand elle sent que ça ne fonctionne pas, elle s'échappe, parce qu'on se méfie pas trop d'elle au début. Donc elle s'échappe, elle disparaît, elle va être reprise 4 jours plus tard. Parce que,
alors, donc là, ça prend, pardon, je vous interromps, voilà, c'est ça prend un retentissement de dingue.
C'est
oui.
énorme, une jeune fille de 18 ans a tué son père et a tenté de tuer sa mère, etc. Bon. Et,
elle a forcément une bonne histoire à raconter, Violette Nozière, aux policiers.
Alors, non, elle n'a même pas été interrogée. Elle est partie. Elle est arrêtée au Champ de Mars parce qu'il y a un promeneur qui a vu sa photo dans le journal. Bon,
c'est l'extrait du film de Chabrol qu'on a entendu.
Voilà, exactement. Et là, effectivement, elle est interrogée. Et elle dit, bah oui, j'ai tué mon père parce qu'il me violait depuis que j'avais 12 ans. Et le policier lui dit, mais et votre mère? Ah ben, je l'ai tuée parce qu'elle n'a rien fait pour me protéger. Et on va penser que c'est une défausse, une de plus, un mensonge de plus. Mais il y a un policier plus tard qui, dans ses mémoires d'ailleurs, dira qu'il était persuadé que c'était la vérité. Et ce policier, c'est le fameux commissaire Guillaume, qui va inspirer Simenon pour le commissaire Maigret, etc.
Mais sa mère, donc, elle était toujours vivante. Comment ça se passe au procès? Elle réagit comment, sa mère?
Très très mal. Moi j'ai mis cette phrase d'ailleurs en exergue du chapitre, parce qu'à un moment de son box, Violette Nozière lui dit « Pardon maman ». Et sa mère lui dit « Je te pardonnerai quand tu seras morte ». Mais quelques jours plus tard, elle va supplier la cour « Laissez-moi mon enfant, laissez vivre mon enfant ». Voilà.
Après plusieurs jours d'audience.
Après, oui, mais très peu, hein, parce que les procès étaient très rapides. Je sais pas exactement combien de jours.
Oui, c'est moins c'est dans la semaine.
C'est vrai qu'à l'époque, on faisait pas de la psychologie. Aujourd'hui, on en fait beaucoup dans les affaires criminelles. Et on se dit, Violette Nozière, quand même, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Quelle enfance elle a eue? Ou quelle maladie a-t-elle pour pouvoir. On tue pas ses parents juste pour un peu d'argent?
Ben, c'est difficile de se mettre dans la tête d'un meurtrier ou d'une meurtrière. Nous, on a que les pièces comme ça du dossier. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que tout meurtrier ou toute meurtrière est quelqu'un avant d'être un monstre ou. C'est d'abord quelqu'un comme nous, quoi. Donc, c'est trop facile de dire c'est un monstre, un génie du mal.
Oui, ça nous éloigne du mal.
Ça nous éloigne.
C'est ce que vous cherchez, d'ailleurs, dans ces histoires. Alors, la part d'humanité
souvent,
chez les monstres.
Bien sûr, oui. Et le déclic, le passage à l'acte, quand même. Sûr. Parce que ça, c'est un mystère que, en général, les assassins n'éclairent pas non plus. Hein, gardent un peu le secret. Mais pour Violette Nozière, pour en venir à votre question, c'est justement, ça a été toute la démarche du commissaire Guillaume. C'est pour ça qu'il n'était pas sur l'affaire. Il était quand même le patron de la PJ, hein, c'était le grand patron de la PJ de Paris. Il est allé la voir, il a demandé à la rencontrer, il a parlé avec elle très longtemps. Et il en parle dans ses mémoires en disant que. Parce qu'elle lui a donné des détails quand même, c'était un flic, hein, donc il sait quelles questions poser, hein, pour voir si c'est cohérent ou pas. Alors elle a dit oui, on avait. Mon père cultivait quelques petits légumes, il y avait des jardins ouvriers à l'époque. Et n'oublions pas, il n'était pas grand savant de
de la compagnie ferroviaire.
Oui. Bon, il était conducteur de locomotive, il avait droit au jardin ouvrier. Et il y avait un petit baraquement dans lequel il y avait les outils, et c'est là que ça se passait, quoi. Et elle va dire au commissaire Guillaume que ça a commencé à l'âge de 12 ans, et que surtout, effectivement, sa mère a tout compris, mais n'a jamais rien fait pour l'aider. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand elle va mourir en 1966, elle va demander, dans ses dernières volontés, elle a demandé à être enterrée près de son père, qu'elle avait tué. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire.
Et qui, soi-disant, l'avait violée quand elle était gamine.
Voilà. Bon. Donc, je dis ça intentionnellement, ouais, parce que, voilà, on ne peut pas répondre à la question.
Bon, parce que pour ceux qui nous rejoignent, elle a été condamnée à mort, mais elle n'a pas été guillotinée.
Non, parce qu'on ne guillotinait plus les femmes depuis pas mal de temps.
Et donc, elle a fini par être de remise de peine dans remise de peine,
libérée
par vivre libre, se marier, avoir des enfants.
Mais pourquoi elle a eu toutes ces remises de peine, Violette Nozière? C'est parce qu'on se disait qu'elle avait des circonstances atténuantes quelque part, et qu'on avait peut-être condamné une jeune fille innocente.
Parce qu'à l'époque, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'à l'époque, c'est pas un procès qui a divisé la France. Hein. Tout le monde était d'accord, on aurait aimé l'avoir guillotinée. Mais il y avait quand même des défenseurs de Violette Nozière. C'était tout le mouvement surréaliste, les dadas.
Ah bon?
Parce que c'était une rebelle, c'était la première femme libérée, elle disposait de son corps. Dans le contexte de l'époque, elle était vraiment adulée par les surréalistes. Mmh. Et ensuite, 42, je crois que 1942, la remise de peine de Pétain, il faut quand même le dire, Pétain était très généreux pour un certain nombre de prisonniers, parce qu'il fallait faire de la place dans les prisons pour y mettre des résistants et des communistes. Enfin, c'est mon analyse de la chose, mais que je donne après avoir lu sur ce sujet un certain nombre d'historiens.
Jacques Pradel, ce livre, Les grandes affaires criminelles pour les nuls, chez First Edition, ça vous a demandé beaucoup de boulot, et vous avez derrière vous une belle expérience à RTL ou ailleurs. Qu'est-ce qui fait, moi je me suis très souvent posé la question, qu'est-ce qui fait qu'une affaire criminelle prend le pas sur les autres, fait la une des journaux, devient un événement d'actualité? Est-ce qu'il y a des ingrédients?
Le mystère, la violence, même si les gens disent non, mais quand il y a un accident sur l'autoroute, on s'arrête sur la file d'en face. Mmh. Le sexe, l'argent. Et aussi le côté polar, le côté enquête policière. Est-ce qu'ils vont finir par trouver qui c'est? Alors il y a des grands mystères comme ça, Chevaline, Dupont de Ligonnès, l'affaire Grégory. Et je pense aussi que ce qui fascine le public quelque part, mais ça c'est très personnel comme réponse, c'est que un certain nombre de gens disent, au moins c'est pas moi que c'est arrivé.
Oui, parce qu'on sait que ça pourrait nous arriver.
Voilà. Ça pourrait nous arriver.
On a
parce
tous
que,
une part
plus,
sombre et une part noire.
Ce sont des gens ordinaires qui, placés dans une situation extraordinaire, passent cette fameuse ligne jaune. Mm-hmm. Et souvent, ça fait partie de l'intérêt qu'on peut porter à une affaire policière, un fait divers, c'est que souvent, le crime, c'est une explosion. On n'a pas prévu quelquefois une heure avant de tuer quelqu'un. Mais après, qu'est-ce qu'on fait du corps? Comment on échappe à la police? Et c'est là où il y a une espèce de... C'est là où j'aimerais être psychiatre, je dois dire. Enfin, quoique les psychiatres disent qu'on leur pose trop de questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette intelligence criminelle qui se met en place? Je vais découper le cadavre, ou je vais faire ceci, je vais me trouver un alibi. C'est extraordinaire.
Ne donnez pas d'idée, Jacques Pradel.
Non. Le livre n'est pas un manuel du crime parfait.
On en est sûr.
Je vous le dis clairement.
Les grandes affaires criminelles pour les nuls, c'est donc chez First Edition. Merci beaucoup. Jacques, c'était un bonheur.
Ouais, c'était un plaisir pour moi
d'avoir
la curiosité. C'est quoi le thème de votre émission demain?
Ah, demain, l'assassin chaussé du 44. C'est comme ça que j'ai...
C'est pas Ozzy alors.
C'était du 38.
C'était une histoire de la fin des années 50 ou 60 d'ailleurs, l'affaire Fiona Jones. Et Fiona Jones, c'était une jeune Anglaise qui avait épousé un Français. Elle est partie faire un tour en vélo un jour, elle a rencontré un assassin. Et nous aurons en studio ici à RTL le général maintenant, Ster, qui à l'époque était membre d'une petite brigade de gendarmerie, qui a mené l'enquête, et c'est lui qui a trouvé que l'assassin, après avoir découvert son mocassin.
Vivement demain. Merci beaucoup Jacques Pradel.
Merci
tout de suite.
Bonne soirée.
Vous écoutez RTL.